Donc nous sommes à la page 360, d'accord. En fait, vous savez quoi, on va prendre la page 359, au milieu de la page. Je vais en faire rapidement, comme ça on se remet dans le sujet. On s'arrête sur un thème très important, que l'on trouve dans tous les livres de Kabbalah, qui s'appelle la notion de Tzimtzum. Tzimtzum, en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire compression. D'accord? Contraction. De quoi on parle? Qu'est-ce qu'on compresse et qu'est-ce qu'on contracte?
La matière.
C'est très simple. Akadosh Baruch Hu veut nous créer. S'il nous crée, mais qu'Akadosh Baruch Hu reste avec sa grande lumière, on brûle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait 2 semaines, j'avais donné l'exemple. C'est comme si vous avez envie de recharger votre téléphone portable avec le courant qui sort d'une centrale nucléaire. Qu'est-ce qui va se passer avec mon portable si je fais ça? iPhone 10, pas iPhone 10, qu'est-ce qui va se passer?
iPhone 1 milliard. C'est pas 1 milliard.
Il est là pour
en même temps. Il va exploser. Pourquoi? Parce que quand tu as trop d'énergie, ça ne tient pas. Donc on est obligé de passer par un stade de tzimtzum, de contraction. Je vous avais expliqué la dernière fois que c'est, par exemple, c'est ça le rôle de votre chargeur. En français, on appelle ça un chargeur, mais en vérité, techniquement, ce n'est pas un chargeur. C'est un transformateur. Il transforme le courant, le 220 volts, il va le transformer en 5 volts. Et s'il vous envoie du 6, du 7, du 12, il explose votre téléphone. D'accord? Maintenant, imaginez qu'on ne parle pas de volts, on ne parle pas d'une centrale électrique, on parle d'une centrale nucléaire. On parle d'Akadosh Baruch Hu. Et on te dit qu'Akadosh Baruch Hu, si tu envoies sa lumière telle qu'il est sans se contracter, on explose. On est obligé de contracter. D'ailleurs, on le voit, vous savez, des fois, il y a des gens qui avancent trop rapidement dans la religion. Et tu les vois, on dit en français, ils pètent les plombs.
Pète un câble.
D'où vient cette expression péter un câble? À quel moment un câble il pète dans votre compteur? Razak, surtension. De la même façon, un être humain, quand il met trop de courant, ça veut dire qu'il contracte pas, il essaie pas de se dire, bon, attends, on va essayer de voir comment on va mettre ça dans la vie de tous les jours, etc. Il pète un plomb. Et ça, j'en ai vu des gens comme ça. Des gens qui viennent commencer à faire teshuva, ils pètent un plomb, ça veut dire qu'ils sont complètement en inadéquation avec leur famille, avec leur femme, avec leurs enfants, etc. Ça, c'est quelqu'un qui a pété les plombs. D'accord? Et donc, c'est évidemment, la Torah ne conseille pas ça. Alors, quel est l'objectif du Tzimtzum? L'objectif du Tzimtzum, c'est de créer un être humain, comme nous, qui va être quasi indépendant. On n'est pas indépendant, en vérité, mais qui va avoir un sentiment d'indépendance, dans lequel, et là j'arrive au point où je vais expliquer, dans lequel, dans le corps, on ne voit pas Dieu. Vous voyez mon corps? David, dans ma main, est-ce que tu vois Dieu? Je ne vois pas Dieu dans ma main. Maintenant, en vérité, c'est Dieu qui fait vivre ma main. Comment il fait à Kadosh Baruch Hu pour ça? Kadosh Baruch Hu, il se contracte. Il se contracte, au point que son énergie est quasi invisible. Il fait tzimtzum. Maintenant, quel est mon rôle à moi, le rôle de l'être humain? Et là, vous allez voir, ça va vous expliquer beaucoup de choses. Mon rôle à moi en tant qu'être humain, c'est de faire la démarche inverse de ce que Dieu a fait. J'explique. Comment on appelle ça? Comment ça s'appelle ça?
Je sais pas, une chips?
Une chips? Non, c'est pas une chip. Ouais, un bisli, un bretzel, je sais pas quoi.
Bon,
très bien. Pour arriver de l'énergie divine à ça, combien il en a fallu du Tzimtzum?
Pas mal, quand même.
Beaucoup. Il a dû se contracter, parce qu'à la fin, j'ai ici une chips qui est devant moi, qui a l'air indépendante, qui n'a pas l'air divine du tout, qui a l'air matériel.
C'est quoi l'origine
de cette chips?
De l'énergie divine de ça?
L'origine de cette chips, c'est l'énergie divine qui est abstraite, qui est descendue. Rappelez-vous, Atzilut, Bria, il a bien dit Monsieur Akos, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, c'est descendu, jusqu'à la fin, tu as un produit inerte comme ça.
Non, mais d'accord, ok, mais d'accord, ok.
Attends, maintenant j'explique. Maintenant, quelle est la démarche de l'homme? Qu'est-ce qu'il fait l'homme? Alors, tu as le chmar. Ce qu'il fait le chmar, il te dit, bon, ben, j'ai un produit matériel, il restera matériel. On te dit, t'as rien compris. On te dit, ce que Dieu attend de toi maintenant, c'est que tu le renvoies à l'ascenseur. Comment tu le renvoies à l'ascenseur? Tu vas prendre cette chips, tu vas faire une beracha dessus, tu vas retirer son énergie pour, grâce à cette chips, mieux servir Hachem.
Quand je fais une beracha, je libère?
Bien sûr. Quand tu fais une beracha, tu libères l'énergie qui est dans cette chips, tu la récupères, et grâce à ça, tu sers Hachem. Donc, tu viens de faire la démarche inverse. Tu viens de transformer un objet matériel en spirituel. D'accord? Ça, bienvenue. D'accord? Ça, c'est la démarche. Donc, c'est ce qu'on appelle en hébreu, le tzimtzum. Maintenant, pourquoi Dieu fait ça? C'est la question que Michael pose souvent. Pourquoi Dieu fait ça? À quoi ça sert? Pourquoi Dieu il se cache? Parce que finalement on joue à cache-cache. Dieu il se cache pour que tu le retrouves et pour que tu reviennes vers lui. Pourquoi Dieu il joue à cache-cache? Pourquoi c'est toute la vie c'est un grand cache-cache? Dieu il se cache, tu le vois pas, et tu fais le malin, après tu comprends que t'es parti trop loin, après tu reviens, et après tu refais le malin, après cache-cache. Pourquoi? Alors on a la réponse aujourd'hui. Vetachlit kolatim tsumim, je suis au milieu de la page 359. Vetachlit kolatim tsumim. L'objectif de toutes ces contractions, Tzimtzumim, ou Kede Livro Gufa Adam Achumri, c'est pour créer le corps matériel de l'homme. Notre âme, elle n'a pas besoin de Tzimtzum. Notre âme, elle est bien telle qu'elle est. Mais pour créer un corps humain, matériel, Dieu a besoin de se contracter, contracter, contracter. Et quel est l'objectif? C'est que dans un corps humain qui va être contracté, dans lequel on ne voit pas Dieu, dans ce corps humain, dans un monde dans lequel on ne voit plus Dieu, l'homme va réussir avec son libre arbitre, je dis bien avec son libre arbitre, à repousser le mal et faire le bien. Ça, vous comprenez, ça aurait été impossible si Dieu avait été visible. Si on voyait clairement Dieu devant nous, jamais on n'aurait pu voter.
Il n'y a pas de libre arbitre.
Il n'y a pas de libre arbitre. Ah là, quoi. Où est le libre arbitre? Le libre arbitre, c'est le moment dans lequel il n'y a plus la peur du gendarme. Tant que tu as la peur du gendarme et que tu as l'impression que tu as quelqu'un qui est avec un fusil sur toi, tu ne branches pas.
Avec le Vaudor, on a quand même voté.
Eh bien, tu as raison. Rouen a fauté. Non.
Moshe n'était pas là.
Rouen a fauté. Moshe n'était pas là. 40 jours sont passés. C'est vrai que c'est pas normal. C'est vrai qu'on s'est fait avoir par le Satan. Mais encore une fois, il y a toujours un problème.
Il a entendu la voix de Dieu.
Quoi?
Ah, la machine l'a entendu la voix de Dieu.
Non, il parle du Vaudor, là.
Hein? Mais il savait même pas qu'il fautait, à la limite. Il savait pas.
Dans toutes les fautes, et Marcel a dit un point très juste.
Il savait même pas qu'il
dans
fautait.
Toutes les fautes, oui. Dans toutes les fautes, il y a un moment dans lequel Dieu se cache. Là, l'homme faute. Et après, l'homme réalise la faute qu'il a fait. Regardez, lorsque Adam a fauté, vous avez parlé d'Adam, d'accord? Et que Adam Harishon, il a fauté. Dieu vient le voir. Quelle est la question que pose Dieu à Adam?
Où es-tu?
Voilà. Ayeka, Hazak. Ça, il est inspiré aujourd'hui. Où es-tu? Où es-tu? Ça veut dire quoi, où es-tu?
Il sait où il est.
Bien sûr que Dieu, il sait où il est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, en vérité, est en train de se cacher. Et que Adam, il croyait que... Je me suis caché derrière un poteau. Tu te caches pas devant Dieu. Tu crois que tu te caches devant lui. Tu te caches pas devant Hachem. Qu'est-ce qui te fait croire que tu te caches devant lui? C'est le Tzimtzum. C'est que Dieu, en vérité, il se contracte au point de se rendre invisible. Pour te donner un libre arbitre, pour te donner la possibilité de faire ton propre choix, de repousser le mal et de servir à Kadosh Baruch Hu. Et un point très important qu'il rajoute, Veliot, je suis l'avant-dernier paragraphe, la page 359, Veliot, Itron, Haor, Mina, Rocher, pour qu'il y ait une supériorité de la lumière sur l'obscurité. Ça, je vais expliquer ce qu'il veut dire ici. Le roi Salomon, il dit la chose suivante. Le roi Salomon, le plus sage. Hein. Le roi Salomon, il dit une phrase qui a l'air bête, a priori. Il dit, moi, le roi Salomon, j'ai vu que la lumière est mieux que l'obscurité. Alors le Zohar, il pose la question, il dit, mais franchement, il y a besoin de s'appeler le roi Salomon pour comprendre ça, que la lumière est mieux que l'obscurité. Tu demandes même à un gosse qui est là, tu l'éteins la lumière. Il dit, papa, allume la lumière, il a peur. Il allume la lumière. Il n'y a pas de question. Où est la question? Alors le roi Salomon, il dit non. Il dit, c'est pas ça ce que veut dire le roi Salomon. C'est le Zohar. Le Zohar, il dit pas du tout. Qu'est-ce qui veut dire le roi Salomon? Il veut dire, à quel moment tu apprécies, bonsoir, à quel moment tu apprécies la lumière? Tu apprécies la lumière lorsque tu es passé par l'obscurité. Lorsque le roi Salomon te dit, on apprécie la lumière de l'obscurité, bien sûr, il sait très bien que si t'es passé, il sait très bien que la lumière c'est mieux que l'obscurité. Mais il est en train de te faire passer un message. Pour apprécier réellement la lumière, il faut être passé par l'obscurité. Combien de fois on a des gens qui ont une chance dans la vie, tout va bien pour eux. Ils ont une bonne famille, ils ont une bonne parnassa, ils ont tout ce qu'il faut, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte comment tout va bien. À quel moment ils se rendent compte? Le jour où ça s'arrête. Le jour où il y a un problème. Et là, il dit, ah, ça allait bien. Ah, bah, dis donc, avant, je devrais pas râler, hein. J'aurais pas dû râler. Ouais. Parce qu'il se rend pas compte. Ce que dit le roi Salomon. C'est à quel moment tu réalises la lumière? Quand t'es passé par l'obscurité. De la même façon, lorsque Dieu crée le monde. Si Dieu ne se contracte pas, il n'y a pas d'obscurité. Automatiquement, c'est pas un challenge. C'est normal qu'on fait la volonté d'Hachem. À quel moment c'est un challenge? À quel moment Dieu apprécie les mitzvot qu'on fait? C'est lorsqu'il sait qu'on est passé par l'obscurité. Il sait que c'était pas facile. Il sait que tu viens d'une famille qui était pas forcément religieuse. Il sait que tu viens dans un environnement où faire la Torah et les mitzvot, c'est pas forcément le premier choix. Il sait que tu viens dans un environnement dans lequel venir à un cours de Tania un lundi soir où il pleut, c'est peut-être pas le choix naturel. Je sais pas ce qu'il y a ce soir. Il y a des matchs ce soir, David?
Non,
hein,
personne des matchs.
Donc voilà, il y a toujours des choses. De toute façon, aujourd'hui, il y a toujours des matchs dans le monde. C'est pas ici, c'est ailleurs.
Faut que tu payes les arbres pour les regarder.
Il y a du vélo, il y a du matin, il y a tout le temps.
Donc du coup, on te dit comme ça. On te dit, tu n'as pas idée à quel point Hachem, il apprécie quand il voit que t'es passé par l'obscurité et que tu as mis de côté l'obscurité et t'as pris la lumière. Hachem, quand il voit qu'il y a un type qui est religieux, qui est né dans une famille religieuse, bon, qui était déjà dans la Torah, qui continue à faire la Torah, Hachem, il dit, c'est bien. Celui-là, il était dans la lumière, il a continué dans la lumière. Mais lorsque tu as quelqu'un qui a été dans l'obscurité et qui a combattu l'obscurité, qui a dit non, je veux amener la lumière dans ma vie, je veux amener la Torah, je veux amener les mitzvot, Hachem, il te dit celui-là, Yitron ha'or mina chosher, c'est la supériorité de la lumière sur l'obscurité, ça veut dire on apprécie la lumière qui vient après l'obscurité. Maintenant ça, vous comprenez bien que tout ce que je viens de vous dire n'aurait jamais pu se passer si Dieu ne s'était pas caché. Si Dieu ne s'était pas caché, si Dieu était visible partout et que la faute était impossible, automatiquement, on n'aurait eu aucun mérite de ne pas fauter. L'obscurité n'existe pas, donc la lumière n'est pas appréciée. Comme en haut, au Gan Eden, ils ont que de la lumière en haut. Mais quand t'as que de la lumière, t'apprécies pas l'obscurité. Quand t'as que de la lumière, t'apprécies pas le fait qu'elle est claire. C'est normal. Il y a que de la lumière.
Donc ça veut dire que quand tu es au Gan Eden et que tu vois que la lumière, tu n'as pas de mérite.
Au Gan Eden, il n'y a plus de mérite. Parce qu'il n'y a pas de challenge. Je vous donne un exemple. Regardez. Par exemple, ici, on est dans un monde, Baruch HaShem, dans lequel il y a de l'air. On a de l'air à respirer. Est-ce qu'on apprécie qu'il y a de l'air?
Non. Non.
Pourquoi? Parce qu'il y en a partout. On se rend même pas compte. Pourtant, l'air, c'est l'élément le plus vital. Combien de secondes on peut tenir sans air? Hein?
C'est quand il y en a pas que...
Quelques secondes, une minute. D'accord? Quelqu'un qui a une excellente respiration, il va tenir 2 minutes. D'accord? 3 minutes, c'est le maximum. On peut pas tenir plus que ça. C'est énorme, 3 minutes. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'air. Et pourtant, est-ce que je suis en train de remercier Hachem chaque seconde sur l'air qu'il m'a donné? Je devrais. Plus que la lumière. Parce que sans lumière, on peut vivre. C'est compliqué, mais on peut vivre. Sans air, on peut pas vivre. Et pourtant, est-ce qu'on remercie Hachem sur l'air?
Non.
On se rend même pas compte qu'on doit remercier. Pourquoi? Parce qu'il y en a partout. Quand il y en a partout, tu te rends pas compte. C'est exactement ce qu'on te dit. On te dit, à quel moment tu apprécies la lumière? C'est lorsqu'il y a l'obscurité. À quel moment Dieu, il apprécie que tu fais une mitzvah? C'est lorsqu'il sait qu'il y a un challenge. Les anges, ils font plein de mitzvot. Dieu, il donne des ordres tous les anges. Dieu, il donne tous les jours des ordres aux anges. Il leur dit, ils ont un cahier de mission. Voilà, toi tu fais ça, 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 ça. Et ils reviennent à la fin de la journée, ils reviennent plus tôt. Ils disent, bon, j'ai fini, patron. Hachem, il lui dit pas, bravo, quoi, la cavotte, t'as assuré. Il a rien assuré du tout, c'est normal. Il y a pas de challenge.
Tu veux un autre exemple?
Vas-y.
Il pleut sans arrêt à Paris, tu vois. Dès qu'il y a du soleil, les gens, ils sont contents, c'est qu'ils vont te sentir joie. Ils vont se jeter sur le terrasse, on tourne.
Bien sûr.
C'est le paradis.
Non, moi j'ai vu un Israélien qui est venu la semaine dernière. Il m'a dit, il est venu, il y avait de la pluie. Il m'a dit, ah, quel kiff la pluie.
Mais c'est inversement
proportionnel. Bah, dis à quel kiff la pluie. Ah, il n'en peut plus là-bas. Il vient, en Israël là-bas quand il fait chaud, ah, il transpire partout. À 10h, tes vêtements ils collent. Qu'est-ce que c'est?
Ah oui.
Tu comprends? Tout est relatif. T'apprécies ce que tu n'as pas.
On peut associer la lumière et l'air alors.
Non, c'est un exemple que je donne.
C'est-à-dire que
ce que je veux dire par là, c'est qu'on apprécie un élément. On apprécie un élément dès qu'il devient rare. Alors, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu nous créer dans un monde dans lequel faire la Torah et les mitzvot, c'est le choix naturel. Dans ce cas-là, il n'y aurait aucun mérite.
C'est pas le but.
C'est le choix naturel, il n'y a pas de mérite. Qu'est-ce que fait Hachem? Hachem, il se cache. Et en exil, il se cache encore plus. On est en plein exil. Partout, même en Israël, on est en exil. Il se cache. Et quand tu fais une mitzvah, c'est pour ça qu'une mitzvah que tu fais en exil, elle vaut beaucoup plus qu'une mitzvah que tu fais quand tu es au Beit HaMikdash là. Parce que Dieu, il se cache. Et Dieu, tu dis, mais attends, avec tout ce que je me cache, ils me voient pas, ils font comme les mitzvot. C'est énorme. Ils sont là, dans l'obscurité, en train de tâtonner, en train de dire, attends, on fait une mitzvah, on fait comme si qu'on voyait, il y a un truc là. Tu vois rien du tout, dans l'obscurité. Et tu fais comme si que tu voyais. Hachem, il est grave impressionné de ça. Et c'est la force du Tzimtzoum. Dieu se contracte. Pourquoi? Pour qu'on arrive à une situation dans laquelle il est là, mais il est invisible. Et là, on fait quand même sa volonté. Et là, quand il aurait dit, c'est ce qui me fait plaisir. Ce qui me fait plaisir, c'est quand tu fais ma volonté, même quand tu me vois pas. C'est le challenge. Donc, je renvoie l'ascenseur vers Hachem. Je crois qu'il y avait des questions.
On est associé au progrès.
Oui, mais ça veut dire comme ça. La question qu'on a se poser, c'est, C'est finalement pourquoi c'est une question que beaucoup de gens posent. Pourquoi Hachem se cache? Pourquoi il se cache?
C'est le but du jeu.
Pourquoi il joue à cache-cache?
Mais c'est le but du jeu, sinon il peut passer, le jeu il marche pas.
Une fois, je vais raconter une histoire. Je crois que c'est avec l'amour de Tzanz, je crois. Une fois, il avait son petit-fils qui était chez lui à la maison. Et il vient le voir en pleurant. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure parce qu'on est en train de jouer à cache-cache avec les cousins. Et je me suis caché. Vous savez comment ça marche cache-cache? On se cache et tout le monde va le chercher. On compte et après il faut trouver. Et il dit, moi je me suis caché derrière le rideau. Et ils m'ont jamais trouvé. Et au bout de 5 minutes, ils m'ont oublié. Moi je suis resté, j'ai attendu une heure. Et j'ai réalisé qu'on me cherchait plus. Alors je pleure parce qu'on me cherche plus. On n'a rien à faire de moi. Dès que son grand-père il a entendu ça, l'admour, il a dit, tout de suite il est rentré en transe. Il a dit, tu t'imagines, Kadosh Baruch Hu il dit la même chose. Il dit, je me suis caché. Mais il me cherche plus.
Ah ouais, on s'est trop caché.
Tu sais, quand tu as cache-cache, au début tu cherches. Après, à la fin, les enfants, pfff, c'est fini.
Il
t'en prie.
Il est parti.
Et l'autre, il attend. Il est là, il se cache encore. Alors, c'est pour ça. Donc, à un moment, il est entré en transe et après, il a levé ses mains vers Hachem. Il a dit, Hachem, arrête de te cacher, il te cherche plus. Pas mal, là. Il est bien sorti. Bon. En tout cas, Hachem, pour l'instant, il se cache. Ça veut dire qu'il espère qu'on le cherche toujours et on le trouve. Bien sûr qu'on le trouve. On le trouve. Donc notre rôle maintenant, c'est de faire la démarche inverse. Dieu, il se cache, nous on le trouve. Dieu, il se contracte, et nous on va le chercher et on l'élève. On a donné l'exemple tout à l'heure du chiffre. Dieu, il se contracte, moi je prends le chiffre, je le ramène vers Hachem. Je prends l'énergie, je le ramène vers Akadosh Baruch Hu. Donc, Be'a Alot, je suis en bas de la page 359. Be'a Alot, Adam et Nafsho, Achiyuni, Aelokit, Vachiyuni, Tugushen, Chol, Akorot, Kulem, Hachem, Levado. Concrètement, comment on fait ça? Ne croyez pas que c'est une histoire de tzadikim. C'est pas des choses compliquées, c'est des choses simples. Vous avez une âme divine, vous avez une âme vitale qui vous fait vivre. Vous avez toute forme d'énergie. Vous avez par exemple la force de la parole, vous avez la force de la pensée, vous avez la force de l'action. C'est des choses, des outils qu'Hachem vous a donné. Lorsque vous utilisez votre parole pour faire une mitzvah, Dieu vous a donné une parole. Avec cette parole, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez insulter quelqu'un, vous pouvez bénir quelqu'un, vous pouvez rendre service à quelqu'un, vous faites ce que vous voulez. Lorsque tu te lèves le matin et que tu dis, tiens, aujourd'hui avec ma parole, je vais rendre service à quelqu'un. Je vais appeler un copain que je pense qu'il va pas bien, je vais l'appeler, je vais lui parler. Au lieu d'utiliser ma parole pour m'accrocher avec ma femme, je vais utiliser ma parole pour appeler un ami, pour lui dire bonjour, comment tu vas? Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de repousser l'obscurité et d'amener la lumière dans l'obscurité. Parce que ma parole, elle est dans un lieu qui est sombre, ça veut dire qu'il n'y a rien. C'est obscur, on fait ce qu'on veut avec la parole, je vois pas Dieu dans ma parole. Quand je prends ma parole et que j'utilise ma parole pour un Kadosh Baruch Hu, je suis en train d'illuminer un endroit qui est obscur. C'est des choses simples, c'est pas des choses compliquées. Ne croyez pas que c'est des choses de tzadikim. C'est des choses simples de la vie de tous les jours. Chaque fois que je fais une mitzvah, j'utilise, alors que j'aurais pu faire une avéra, ou j'aurais pu ne rien faire, et faire une mitzvah, c'est jamais le choix naturel. C'est pas le choix naturel. Faire une mitzvah, c'est, mon âme animale, elle a pas envie de faire une mitzvah. Parce que on est dans un monde aujourd'hui dans lequel.
C'est naturel aussi, au bout d'un
moment. Oui. Et là, je parle d'un cas dans lequel c'est pas naturel. On est dans un monde dans lequel Dieu se cache. Et quand Dieu se cache, c'est pas le choix naturel de faire une mitzvah. Le choix naturel, c'est pas de faire sa volonté, c'est de faire ce que je veux.
Par exemple, il se cache, mais on sait qu'il existe. Dans les mitzvot, c'est pas des. C'est presque naturel.
Sache que dans les mitzvot.
Pas toutes, peut-être.
Dans les mitzvot dans lesquels tu n'as pas de challenge, il y a beaucoup moins de mérite.
Peut-être.
Les mitzvot dans lesquels, par exemple. Est-ce que pour toi, Serge, faire le Shabbat, c'est un challenge? C'est dur.
Non.
Mais non, au début, c'est dur.
Oui ou non? Plutôt oui, plutôt non.
Plutôt non.
Donc, t'as moins de mérite que quand t'as commencé à faire Shabbat.
Ah oui, d'accord.
Mais quand
j'attends. Non, mais c'est pas négativement. Donc ça veut dire quoi? Non, attendez.
On s'arrête de faire Shabbat.
J'ai entendu la question. Je suis pas en train de dire ça pour te dire arrête de faire Shabbat.
Quand j'attends quelqu'un pour la
porte. Je suis en train de te dire ça. Je suis en train de te dire ça pour te dire à toi de chercher le prochain challenge.
Après, c'était fini.
Voilà. Par exemple, tu dis par exemple, le Shabbat, je pourrais rajouter un peu plus d'études, un peu plus de Tehillim, un peu plus de Kavanah dans la prière. Je pourrais venir à 9h du matin au cours de Chassidut, par exemple. Je parle pas de toi, je parle de tout le monde. D'accord? Alors.
Non, mais t'es personne.
Toujours pas en
hein?
Non, mais t'y étais, toi.
Tu peux aussi rajouter des salades à table.
Donc, voilà, je peux venir. À quel moment, ça veut dire qu'à quel moment Akadosh Baruch Hu, il apprécie ta mitzvah, c'est lorsqu'il y a une obscurité que tu repousses, lorsqu'il y a un challenge que tu surmontes. Voilà, monsieur Akos, il est dans le sport. D'accord? Dans le sport, au début, quand il commence à courir. D'accord? Il fait 100 mètres, il est essoufflé. Très bien. Après, il va courir pendant, il va courir 10 fois 100 mètres, d'accord? Et après 100 mètres, c'est plus difficile pour lui. Alors il va dire, bah c'est bien, j'ai réussi mon challenge. Non, ton challenge c'est plus 100 mètres, non, c'est 200. Parce que 100 c'est déjà acquis. Il faut que tu sentes que, à un moment, un bon sportif, il doit sentir à un moment que ça tire. Que ça tire.
Mais est-ce qu'on a toujours la récompense du Shabbat qui nous est pas difficile ou pas? Malgré tout.
Écoute, si tu veux le paradis, on ira tous au paradis.
On n'a pas de mérite.
Non, mais Michel Poilard.
D'accord, on n'a pas de mérite, mais la récompense arrive toujours, malgré tout. Non?
Quoi? T'auras des récompenses, c'est pas de problème.
Non, c'est pas ça, c'est que.
La question, on est là pourquoi?
Comme il dit Mickaël, à ce moment-là, on arrête de faire Shabbat et tout.
Non, mais ma question est très simple. Regarde. À quoi je sers ici? À quoi tu sers ici? En quoi le monde est différent avec ou sans Marcel?
Rien.
À quoi je sers? Si je sers à gagner ma vie pour manger, je gagne quoi? Je gagne quoi finalement? C'est la survie ça. Je sers à quoi ici? À quoi je sers ici? Qu'est-ce que j'ajoute dans le monde? Chacun de nous doit se poser cette question. D'accord? Eh ben, si je suis là pour faire de la survie, je sers à rien. Si je suis là pour gagner ma vie pour manger, on dit bon, ben pour manger et pour déféquer, d'accord, et pour après pourrir dans le, pour après pourrir après 120 ans. Donc t'as gagné quoi? On a créé un corps, oui, on a fait l'inverse. Après c'est plus de chair pour la vermine. Je m'excuse hein, si je suis un peu cru. C'est pas le but. C'est pas le but, évidemment, c'est pas le but. Le but c'est de construire. Qu'est-ce que je construis? Je construis tous les challenges que je surmonte. Ça c'est les mitzvot. Je fais un plaisir à Hachem. Lorsque je sens qu'il n'y a plus de challenge, d'ailleurs c'est ennuyant. Quand je sens qu'il n'y a plus de challenge. Je donne souvent cet exemple aux jeunes. Vous savez, les jeunes, Ils ont des jeux. Pas que les jeunes d'ailleurs, il y a des gens qui se sentent jeunes. Ils ont des jeux avec des niveaux. Des niveaux et des mondes, d'accord? Et des fois, il y a ce qu'ils appellent, je sais pas, des cheats, des codes, d'accord?
Ouais.
Ça veut dire comme ça. C'est-à-dire, par exemple, imaginons un jeu dans lequel t'as 15 mondes, et dans chaque monde, t'as, je sais pas moi, t'as combien de niveaux dans chaque monde, David?
20, 30.
Donne-nous des exemples, David, hein? Donne-nous l'exemple d'un jeu que.
Maintenant, c'est à l'infini maintenant.
Ah, c'est à l'infini, d'accord.
L'infini,
ah, il te rajoute. Par internet, il te rajoute.
T'arrives jamais.
Des mises à jour. D'accord. Bon, alors, très bien. Imaginons maintenant que t'as un jeu avec 50 niveaux.
Maintenant, il y a des séries.
Et que t'as un code. D'accord. Et que t'as un code. Avec ce code-là, tu peux atteindre directement le 40e niveau.
Oui, ça existe.
Le code, tu payes sur internet, ou tu prends, ou tu trouves, etc. Avec ce code, tu arrives directement de 0 à 40. D'accord. T'as rien fait, t'arrives. D'accord. Alors t'as des tricheurs qui vont prendre, mais les vrais joueurs, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont te dire mais c'est n'importe quoi. Tu dis pourquoi? Pourtant tu vois quelqu'un, tu dis mais je comprends pas. Quel est ton but? Ça répète. Vous pouvez répéter c'est comme à vos enfants. Ah, oui. Tu dis mais je comprends pas. Tu dis mais quel est ton but? Ton but c'est d'arriver à 50. Moi je te donne un code pour arriver à 50. Quel est ton problème? Ton but c'est de gagner. Moi je te fais gagner. Ton but c'est de gagner un million. Moi je te donne le million maintenant.
Ah ouais.
Où est le problème? Il va dire mais t'as rien compris papa. Mon but c'est pas d'arriver à la fin. Mon but, c'est pas stable de dire j'ai gagné un million.
Je veux pas arriver au bout.
Mon but, c'est de le gagner.
Ouais,
de mériter. J'ai essayé, je suis tombé, une vie, deux vies, je suis retombé, j'ai recommencé, etc. Je suis arrivé, ah, j'ai réussi.
Les joueurs, c'est ça, les joueurs.
Si tu me fais réussir, alors j'ai pas travaillé, ça a rien du tout, c'est la même façon. Hachem, il dit qu'est-ce que tu veux? Tu veux une vie que t'appuies sur un bouton, tu fais le travail de 120 ans en un jour? On peut te faire ça.
C'est le gain.
Mais tu vas arriver en haut, t'es dégoûté, t'as dit Hachem, ça sert à rien, c'est nul. Tu m'as donné un code. Et des gens comme ça, ils ont des codes. Ils ont des codes. En un jour, ils font 120 ans de travail. Hachem, il te dit, c'est pas mon but. S'il y a un jeu qui dure 120 ans, c'est qu'il doit durer 120 ans. Et dans ce jeu qui dure 120 ans, on tombe, on recommence. Game over. Remettez une pièce, il faut recommencer.
Celui-là, ça fait 5770 ans qu'il
est. Ah ouais, c'est trop.
Non, mais déjà, après, il y a un jeu personnel. Un jeu personnel.
En partant du jeu personnel, quand tu arrêtes de jouer, toi, personnellement, tu deviens jeu. Parce qu'il y a du jeu au jeu.
Ah, il a inspiré, là.
Mais c'est lui. C'est toi qui m'as lancé. C'est toi qui a ouvert la porte.
La console est tout le temps là. Tant que tu mets des pièces, ça marche.
Oui, d'accord, mais pas tout le monde.
Tout le monde peut jouer.
Non, mais tout le monde peut jouer, mais tout le monde ne joue pas. Il y a des observateurs.
Ah oui,
il y en a. Il y a des observateurs. On les a bien envoyés.
Tant que je joue, il met des pièces, il est coca.
Oui, c'est vrai qu'on est tous passés par le jeu.
Le clignotant, hein.
Bon, alors on continue.
Enfin, on est tous là, on a tous joué.
Kizé, on tourne la page. Kizé tachlit aishtal shelut olamot. Ce qu'on vient de dire, c'est le but de l'enchaînement des mondes. Rappelez-vous l'enchaînement, j'ai expliqué ça il y a trois cours. L'enchaînement, c'est le système avec les chaînons. Comment Dieu il descend. Et à la fin, les questions après. Et à la fin, on est tout à la fin. D'accord. Voilà. On dit mais pourquoi Dieu tu crois qu'il est descendu? Il a que ça à faire.
Non.
Il a que ça à faire, à descendre, à se rabaisser. Se rabaisser, à descendre, descendre et devenir matériel. Tu crois que Dieu n'a que ça à faire? Pourquoi Dieu fait ça? Dieu ne fait pas ça pour se faire un kiff. Il dit, bon, bah tiens, je vais aller dans la matérialité. Pourquoi Dieu fait ça? Le but de l'enchaînement des mondes, le but de la descente, pourtant, c'est une souffrance pour Akadosh Baruch Hu Kaviyachol. Pourquoi c'est une souffrance? Parce qu'il descend. C'est quoi son but? Son but, c'est qu'en bas, il y aura quelqu'un qui fera la démarche inverse. Toi, tu vas te cacher, et ton fils, il va te chercher, il va te trouver. Ça, c'est le but. Alors, celui qui n'a rien. Il y a un exemple comme ça qui est raconté dans Rashi. Une fois, il y a un père qui porte son fils. Le fils, il a rien de marcher dans le désert, et à un moment, le fils, il est fatigué, il dit, papa, je suis fatigué. Alors, le père, il prend son fils, il le pose sur ses épaules. Et il marche comme ça des kilomètres. Et à la fin, le fils, il interpelle quelqu'un dans la rue, il dit, excusez-moi, vous avez pas vu mon père? Le père lui dit, dis-moi, c'est moi qui te porte. Ça veut dire que des fois, pourtant, le gosse, il était porté par son père, mais tellement il était dans son confort, dans son aise, qu'il oublie d'où ça vient. Des fois, j'entends des fois des enfants, partout, la communauté, partout, etc., qui parlent sur leurs parents. J'ai dit, mais baba, tu sais qu'à l'époque, la Gemara, des gosses de ton âge, travaillaient, déjà, ils étaient dans le monde du travail, ils suaient pour gagner leur vie, c'est eux qui finançaient leurs parents, ça t'est en train de râler. Nourri, logé, blanchi, tu veux des converses, c'est des converses, tu veux l'iPhone nouveau, modèle, tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu râles maintenant? Tais-toi. Et comprends pas. Pourquoi? Parce que quand tu es sur le dos de ton père, et qu'on avance, tu vois même plus, tu dis, vous avez pas vu mon père? Ouais, il me casse les pieds, il est où mon père? Il me casse les pieds, où est mon père? Je suis là. Alors imaginez maintenant, si à la place du père, si à la place de vous et vos enfants, vous mettez, c'est une image que je suis sûr chacun s'identifie à ça, l'idée que tu portes tes enfants et que parfois ils oublient qui les porte. Là, surtout, plus ils grandissent, et plus, malheureusement, c'est un effort. Maintenant, imaginez maintenant, si à la place du Père, vous mettez Dieu. Dieu, il nous porte. Et nous, on dit, où est Dieu? On le voit plus, on le voit pas. Il est où Dieu? J'ai jamais dit, mais attends. Où t'as trouvé un peuple qui est là depuis 3300 ans? Quel peuple qui a tenu depuis 3300 ans? Vous connaissez un autre peuple dans le monde qui a tenu depuis 3300 ans? Aucun. Alors, comment tu es tenu? Crois stable, t'es tenu comme ça? Ah, ben, on a marché dans le désert, comme ça. Ouais, je sais pas, ouais. Ouais, l'eau qui est tombée, elle est tombée toute seule. D'où elle est tombée, l'eau? Quelqu'un qui s'occupait de toi. Quelqu'un qui t'a porté. Quelqu'un qui t'a nourri. Quelqu'un qui s'occupait de toi. Ça, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il descend. Akadosh Baruch Hu, il descend. Pourquoi il descend? Pour l'intention que nous, on va faire, Bezrat Hashem, la démarche inverse. Maintenant, il continue. Il dit Veiné. Je suis au milieu de la page 360. Veiné. Kemaim apanim apanim lapanim. Rappelez-vous l'image qu'on a expliquée dans le chapitre 46. L'image qu'on a expliquée dans le chapitre 46, c'est l'exemple, vous vous rappelez, avec le roi et le roi qui va voir le clochard dans les poubelles. Vous vous rappelez cet exemple?
Ouais.
Bon. Et on avait expliqué là-bas une image très forte, une image aussi qui est basée sur le roi Salomon, qui dit que il y a une forme de réciprocité dans le contact des êtres humains. Ça veut dire comme ça. Tu fais un sourire à quelqu'un. Automatiquement, même s'il ne le veut pas, il commence à te sourire. Tu fais la tête à quelqu'un, automatiquement il te fait la tête. Ouais. Parce que, il dit comme ça, le roi Salomon utilise l'image suivante. Il dit, de la même façon que lorsque tu vas devant un cours d'eau, le cours d'eau te renvoie ton visage. Le reflet, tu vois. Tu fais une grimace, tu vois une grimace. Tu fais un sourire, tu vois un sourire. Donc, après tu vas dire, ah t'as vu dans l'eau là-bas, il y en a un qui fait une grimace. Tu dis, mais c'est qui fait la grimace? C'est toi qui fais la grimace. Tu fais une grimace, tu vois une grimace. Tu fais un sourire, tu vois un sourire. Et là, c'est pour ça, vous savez, on dit les ânes, lorsqu'ils vont boire, ils sont toujours en train de taper dans l'eau. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils croient toujours qu'il y a un autre âne qui va leur prendre l'eau.
Non.
C'est sérieux? Ils croient toujours qu'ils voient un autre âne. Il tape, il dit, il m'attend aussi. Khmar, ça veut dire quoi?
Un âne.
Il est là, il voit un autre, il dit, ah, il m'a en train de prendre mon eau. Il a peur qu'il n'y ait pas assez d'eau. C'est très simple. Donc, de la même façon, on te dit à Kadosh Baruch Hu, il y a une sorte de réciprocité. Je reprends l'exemple. Tu fais un sourire à quelqu'un, il te fait un sourire. Tu fais la tête à quelqu'un, il te fait la tête. À Kadosh Baruch Hu, d'accord, Kemaim apanim apanim, kelev haadam la adam. Il te dit, normalement, si tu réfléchis à tout ce qu'on a expliqué depuis chapitre 46, un juif ne peut pas ne pas tomber amoureux de Dieu. Pourquoi? Comment on tombe amoureux de Dieu? Tomber amoureux. Comment tomber amoureux de Dieu? C'est très simple. Quand tu réalises tout ce que Dieu a fait pour toi, combien il te porte, combien il s'occupe de toi, combien il te donne tout, etc. Tu peux pas ne pas aimer Dieu. Tu peux pas ne pas l'aimer. Tu dis, mais je le connais pas, je l'ai jamais vu. Oui, mais tu comprends bien que si tu es là depuis tellement de temps, c'est qu'il y a quelque chose. il y a quelqu'un qui s'occupe de toi. Dieu, il a tout mis de côté. Rappelez-vous l'exemple du chapitre 46. Il a mis de côté ses anges. Il a mis de côté le Gan Eden. Il a mis de côté les tzadiki. Il a mis tout le monde de côté. Il a dit, je vais descendre ici-bas sur terre. C'est eux que je veux. Ani ohev etrem. Je vous aime. Dieu, il dit, je vous aime. Quand est-ce que tu fais ça? Rappelez-vous l'exemple du clochard. Le clochard ne peut pas aimer, ne peut pas aimer en retour le roi qu'il a aimé. C'est obligé. Mais ça, vous comprenez qu'à quel moment tu apprécies ça? C'est lorsque tu sens que le roi a fait un effort pour toi. Le roi, il a fait un effort. Il est parti chercher le clochard. C'est un effort. De la même façon, pour Akadosh Baruch Hu, lorsque Akadosh Baruch Hu est avec des anges, il est avec des tzadikim, il est dans son environnement, il est dans sa tasse de thé. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu descend dans ce monde, il n'est pas dans sa tasse de thé ici. Il est mal à l'aise, Hachem, ici. Il est pas content. Il est en exil, il est là, les gens ne calculent pas, il n'intéresse pas. Il est là en train de faire l'aumône. Il dit, bon, faites-moi une mitzvah, vas-y, fais une mitzvah. Hachem, il n'est pas content ici. Il n'est pas bien. Toi, quand tu viens et tu te rends compte qu'Hachem, il a fait un effort pour descendre vers toi, que tu lui renvoies l'amour à Kadosh Baruch Hu, automatiquement, Hachem, il apprécie ça. Il dit, c'est beau. Il est venu me chercher quand personne voulait de moi. C'est tout. C'est comme il y a un exemple. Une fois, vous savez, pour montrer que des fois personne ne veut. Et une fois, une personne qui m'a raconté comme ça, une personne qui avait des gros moyens, et quand il avait ses gros moyens, tout le monde l'appelait. Et après, il a fait des mauvais coups, d'accord? Malheureusement, il a pas eu de chance. Il a perdu tous ses moyens. Et il m'a raconté progressivement. Les gens, tous mes amis, j'avais plus d'amis. Presque plus de famille même. Les gens, ils te connaissent plus. Une blague comme ça, on raconte. Une fois, il y a un monsieur comme ça qui a perdu tous ses moyens. Un riche, très riche. Et il a perdu tous ses moyens. Et après, bon, Hachem, la roue a retourné, il a repris ses moyens. Et comme par hasard, dès qu'il avait perdu de ses moyens, plus personne ne le connaissait. Il venait à la Torah, il venait à la synagogue, personne ne faisait monter, personne, etc. Donc personne ne le connaissait. D'accord? Et là, et pas au prochain, mais il a repris ses moyens. Et là, tout d'un coup, dès que tout le monde a pris qu'il a repris ses moyens, il arrive à la synagogue. Ah, Travod, Yahamod, ouais, il n'est pas en chair, tu vois. On attend le Babour Shemit Nadev. Donc Yahamod, etc. On appelle le monsieur. C'est un jour de semaine. On l'appelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort son chéquier, il fait un chèque, il pose sur la teba, il retourne à sa place. Alors le rabbin, le shamash, il lui dit, mais monsieur, vous n'êtes pas encore monté à la Torah. Il lui dit, mais c'est pas moi que vous avez appelé, c'est mon chèque, vous l'avez eu.
C'est bon.
Elle est méchante.
Ouais.
Elle est méchante, mais c'est
une... Elle est revancharde.
Ah, c'est pas revancharde, il veut dire, vous voulez mon chèque, vous l'avez eu. On va oublier que...
Quand
j'avais besoin de vous, personne n'était là. Oh. Et maintenant que vous avez besoin de moi, vous êtes là. Ça marche pas comme ça. C'est une image dans la vie, ça. C'est-à-dire que dans la vie, c'est donnant. Quand tu montres à quelqu'un que tu es là pour lui, quand il a besoin de toi, automatiquement, c'est même pas que t'attends ça, automatiquement, le jour où toi tu seras dans le besoin, il viendra t'aider aussi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'il fonctionne avec Hachem aussi. Hachem, il te dit, j'apprécie le fait que dans un monde dans lequel personne voulait de moi, toi tu es venu, tu m'as cherché, c'est pour ça qu'Hachem nous aime, le âme Israël. Personne ne veut entendre parler de Dieu ici, ça ne les intéresse pas, ils sont occupés, ils sont là à gagner leurs sous, ils sont occupés, ils n'ont rien à faire de Dieu. Personne n'en a à faire de Dieu ici. Toi, tu viens, tu es en train de te casser la tête. Qu'est-ce que Dieu aurait voulu? On est en train de faire un cours de Tania pendant une heure. On se dit, mais tiens, quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu aurait voulu? Hachem, il dit, mais franchement, c'est bon, ceux-là. Ils sont dans un monde où personne ne pense à moi, et eux, ils sont en train de penser à moi. Ils sont en train de se dire, waouh, qu'est-ce qu'on peut faire pour moi, pour Hachem, etc. C'est magnifique. Hachem, il apprécie ça. Hachem, il apprécie que dans un monde d'obscurité, on allume une petite lumière. On allume même une petite lumière. Et rappelez-vous cette image, que même une petite lumière peut repousser beaucoup
d'obscurité.
C'est tout. Donc, on va continuer dans les mots. Veine kamaï apani lapanim. Alors là, il va employer des mots très forts, très forts. Kimo shakadosh baruchu kaviachol. De la même façon que Dieu, je suis au milieu de la page 360. Iniach vesilek lidzadim. Comme Dieu, si on peut dire, a mis de côté son immense lumière, a biltitachit, son immense lumière infinie, et Dieu a fait, il a caché sa lumière, il s'est contracté, bria, et tira, il s'est contracté, pour arriver à la fin à un monde matériel comme le nôtre. Pourquoi Dieu a fait tout ça? Vous croyez qu'il a besoin de moi? C'est incompréhensible. Vous avez quelqu'un qui a des milliards, il est en train de dépenser pour avoir rien à la fin. Pourquoi il fait ça, Hachem? Ve'akol bishvil ahavat adam atarton. La seule raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu fait ça, c'est pour l'amour de l'homme qui est en bas. Dieu nous aime plus que les anges au Gan Eden. C'est très fort, ce qu'on entend dire. Léa alotol Hachem pour le lever vers Hachem. Ki ahava doreket abassar. Car l'amour comprime la chair. Ça, c'est une expression talmudique, Ahava de Rekatabasa, qui veut dire que lorsqu'on aime quelqu'un, automatiquement, on trouve la place pour lui. Quand t'aimes pas quelqu'un, il n'y a pas de place. J'ai pas de place dans le lit, j'ai pas de place ici, j'ai pas de place s'asseoir. Mais quand t'aimes quelqu'un, tu peux mettre 10 personnes, mais il y a la place. Tu comprends? Et c'est un mot de l'Akbara, ça. Ahava dochekat abassar. L'amour repousse la chair. De la même façon. Tu dis, mais comment le Dieu, le grand Dieu, il est là, il se contracte, se contracte, se contracte, la spiritualité, il devient matériel. Comment il fait ça? Parce qu'il nous aime. Tellement il nous aime, que l'amour le pousse à faire des choses que jamais il n'a fait. Il se contracte, se contracte, se contracte. Donc quand tu réfléchis ce qu'Hachem a fait, il a tout mis de côté pour toi, parce qu'il t'aime. À la chat kama ve kama, plus forte raison, ve chifle chiflaim le enketz. Encore plus, d'accord, et encore plus que ce qu'elle m'a fait, qui raou il est adam le aniach. Alors, je vous préviens, les mots qu'on va dire ici, c'est des mots qui sont très forts. Je sais pas si vous êtes à ce niveau-là. Je pense pas que je suis à ce niveau-là non plus, mais je le dis quand même. D'accord? Je préfère vous prévenir. Je suis au milieu de la page 361. À la chat, non, enfin au début. À la chat kama ve kama, à plus forte raison. Bechifle chiflaim le enketz, infiniment plus encore. Kira ou il a adam gamken la niar velazov kol asherlo. L'homme devrait, c'est inconditionnel, mais l'homme devrait mettre de côté et abandonner tout ce qu'il possède. Min nefesh ve'ad basar, depuis l'âme jusqu'à la chair, tout. Ou le afkir akol, et renoncer à tout. Vishvil et dov kaboid barer, pour s'attacher à Dieu. Bit veka hasheka vacha fetza, avec un attachement, un désir, une aspiration. Au point que rien ne fasse entrave à l'attachement vers Hachem, à mon attachement vers Hachem, mi baïtou michoutz, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur, lo gouf, ni le corps, lo nefesh, ni l'âme, velo mamon, ni l'argent, velo ishaobanim, ni même la femme et les enfants. Ça veut dire que rien ne devrait me bloquer de m'attacher à Kadoshou. Alors,
je parle comme Rabbi Shimon Bar Yochai.
Voilà, justement. Alors, je précise. Je ne suis pas en train de dire maintenant, ici, Chas v'Shalom, que l'homme doit tout abandonner, il dit bon, ça y est, maintenant, moi je décolle, j'enclenche la fusée, je monte droit, ceux qui montent avec moi, tant mieux, ceux qui ne sont pas avec moi, tant pis, ils restent sur le carreau. D'accord? Chas v'Shalom, c'est pas du tout l'approche de la Chassidout, c'est pas l'approche de la Torah, D'ailleurs, la Torah nous dit, on doit vivre avec la Torah, on ne doit pas mourir avec la Torah. La Torah est là pour nous permettre d'évoluer dans un monde, évoluer dans ce monde-ci. Cependant, comme disait beaucoup le rabbi Yosef Yitzhak, il disait que c'est vrai qu'en général un homme doit rester les pieds sur terre. Il doit savoir qu'il a une femme, qu'il a des enfants, qu'il a une situation, qu'il a une parnassa, etc., qu'il est carré, qu'il est cadré, etc. Mais parfois, par amour pour Hachem, il faut savoir faire des choses qui te dépassent, des choses dans lesquelles tu dis, il n'y a rien qui compte maintenant. Comment il dit le rabbi Yosef Yitzhak? Il disait, parfois, il y a des situations dans lesquelles un homme doit dire, hineni.
Me
voici. Inéni. Pas, attends, faut que j'en parle à mon patron, faut que j'en parle à mes enfants, faut que j'en parle à ma belle-mère, faut que j'en parle à ma soeur, faut que j'en parle à ma femme, il faut que j'en parle à mon patron, faut que j'en parle à moi-même, faut que j'en parle à mon âme animale. Entre temps, t'es sous la tombe. D'accord? Oui.
C'est bon.
120 ans, bah oui.
C'est dans ce sens-là.
Dans ce sens-là, il te dit, je comprends qu'un homme doit être cadré, que plus on avance dans la vie, plus on devient sédarisé, ce qui est bien. On a un ordre, on a un sédaire, on a un programme, etc. Mais parfois, il faut dire, écoute, Hachem a tout mis de côté pour toi, mets de côté, ça suffit. Arrête de calculer. Et ça, je vais vous dire, on retrouve ça partout. C'est-à-dire que même dans la relation que vous avez avec vos épouses, avec vos enfants, etc., on est dans un monde dans lequel on calcule tout est calculé. Qu'est-ce que je donnais à ma femme, et qu'est-ce qu'elle m'a donné, qu'est-ce que je donnais à mon fils, et qu'est-ce qu'il m'a donné, et le retour, et pas le retour. Tout est calculé dans ce monde. On dit, à un moment, il faut arrêter de calculer. Et moi, j'ai fait ça pour lui, t'as vu, il n'a pas fait ça pour moi. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Tout est calculé dans ce monde. C'est comme ça, depuis qu'on est bébé, on est comme ça. L'homme est comme ça, l'être humain est toujours calculateur. J'ai fait ci, il m'a fait ça, il aurait dû me faire ci, etc. Et les gens se fâchent. On dit, écoute, à un moment, il faut se dire, hineni. Ça veut dire, il faut dire, écoute, Hachem a tout mis de côté pour toi, qu'est-ce que toi t'as donné pour Hachem? Commence pas à me raconter tes salades, non mais tu comprends, je suis né dans une famille comme ça, et j'ai une femme comme ci, et j'ai une parnassa comme ça, et j'ai une maison comme ci, et j'ai des enfants comme ça, et j'ai des problèmes par ci, des problèmes par là. Ça, tu racontes tes salades à une autre personne. À un moment, il faut s'engager. Il faut s'engager concrètement. Hineni. Ouais, c'est ça le sens qu'il veut dire ici. Ok. Donc vous voyez, l'image qu'on est en train de nous dire ici, c'est qu'Akadosh Baruch Hu apprécie les efforts qu'on fait. Hachem, il sait très bien que c'est difficile pour toi de faire une mitzvah. Et lorsqu'il voit l'effort que tu fais, que tu as repoussé l'obscurité pour cette lumière, Hachem, il kiffe grave. Regardez, moi, par exemple, j'ai vu ça. Je donne souvent cet exemple, et là, je l'ai vécu chez moi. On a le petit dernier qui a commencé à faire ses premiers pas à marcher. Au prochain. Merci. Alors, non, mais c'est intéressant. Parce que tu vois, il commence à marcher. Il marche, tombe, il se casse la figure, il pleure, il se relève, il remarche, il rigole. Hop, il tombe, il pleure. Et comment c'est un enfant qui marche? C'est intéressant. Parce que finalement, quand son enfant est petit, tu as toujours tendance à vouloir le prendre par la main et le faire marcher. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il a besoin l'enfant à ce moment-là? Il ne faut pas que tu le prennes par la main. Qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de tomber. Il va pleurer, mais ce n'est pas grave. Et toi, qu'est-ce que, en tant que parent, quand tu vois ça, quand tu vois la volonté, tu vois, il est là, il s'accroche, il avance, tac, 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 il tombe, tac, tac, il rigole, il tombe, il est content. Qu'est-ce que tu apprécies? Qu'est-ce que tu apprécies finalement? Tu apprécies le fait qu'il se bat. Le courage, que ce n'est pas facile, et que le choix naturel, c'est de rester à quatre pattes. Parce que quatre pattes, c'est facile, ça marche. On change pas une équipe qui gagne. Hein. Ça marche. On marche à quatre pattes, ça marche. On prend la tête à marcher sur les deux pieds maintenant. Ça marche très bien. Et après, on prend la tête. Ça m'a dit non. Il dit, je vais en challenge. Et quand tu vois ça en tant que parent, tu vois le challenge, ça te fait plaisir. Tu prends ce téléphone, tu sors, tu commences à filmer. C'est challenge, il surmonte un challenge. Bah, dites-vous qu'Hachem, c'est la même chose. Hachem, il nous voit comme ça, on est là. Marche à quatre pattes, c'est facile. Se coucher par terre, c'est facile. Il dit, bon, j'attends, vas-y. On voit le soleil. Quand tu veux, Hachem, moi, je suis là, je suis tranquille, j'attends. Mais quand Hachem, il voit qu'on est là, on est là, on essaie de se lever. On se casse la figure parfois, c'est vrai. T'es levé, pac, tu tombes. Et quand on tombe, plus t'es monté, plus quand tu tombes, ça fait mal. Mais concrètement, t'es monté, Hachem, il voit ça, il a du plaisir. Comme l'enfant, il est levé. S'il a fait un pas, il est tombé, il se fait pas très mal. Mais si l'enfant, il s'est levé, il a commencé à courir, il a fait 10 pas et hop, il est tombé. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il se fait mal. Pourquoi il se fait mal? Parce que plus tu prends la distance, plus quand tu tombes, ça fait mal. Mais c'est pas grave. Est-ce que ça te dérange le père? Bien sûr, tu vas le prendre dans les bras, tu vas le donner un câlin, etc. Mais est-ce que dans ta tête, tu dis, ah, faut que je change le système. Faut que je mette des coussins partout pour qu'il... Pas du tout. Pourquoi tu fais pas ça? Parce que tu sais qu'il est en train d'apprendre. Et que, à quel moment t'apprécies la lumière? Quand tu passes par l'obscurité. À quel moment t'apprécies l'effort? Quand tu sens que c'était un effort. Maintenant, ce même enfant, il va grandir, et quand il aura 3 ans, qu'il va courir dans toute la maison, qu'est-ce que je vais lui dire?
Arrête de courir.
Arrête de courir.
Ouais. Bien
la tâche. Il fait ses premiers mots. Il fait ses premiers mots, il dit papa, tiens, bravo. D'accord? Après, il grandit une pipelette, il dit tais-toi. Macara. Tu m'as félicité quand je parlais, quand je courais. Pourquoi maintenant tu me dis de m'arrêter? Parce que quand tu cours, quand t'as 3 ans, 4 ans, c'est plus nouveau. C'est plus un challenge. Maintenant, le challenge, c'est de te taire. Vous voyez? Maintenant, le challenge, c'est de te contrôler.
Avec toi.
Marcel, t'étais pas visé,
c'est méchant. Pas gagné.
Bah oui.
Non, mais c'est un exemple. Ouais, mais c'est l'exemple de courir.
Même si c'est vrai, t'es sûr.
Mais c'est un exemple qui est vrai, hein.
Je vous dis ça. Je vous dis ça parce que j'ai vécu ça hier à la maison.
Toi, t'es passé de moi.
D'accord. J'ai vécu ça hier à la maison. Il y avait le dernier qui s'est levé, qui a commencé à se lever et commencé à vouloir courir. Ouais. Voilà, on l'a applaudi, on l'a félicité. Après, pas derrière, il y avait l'autre qui a commencé à courir. Je dis arrête de courir, les voisins. Maintenant, c'est le même. C'est le même plancher.
Ben c'est le même plancher.
Seulement, voilà. C'est pas la même chose. Un, son challenge, c'est de pas courir. L'autre challenge, c'est de courir. Tout dépend. Pourtant, c'est le même être humain, etc. Tout dépend du challenge. Alors, maintenant, avec ça, avec cette idée magnifique. Donc, vous voyez, Dieu descend, il se contracte, il joue à cache-cache pour que nous, de notre côté, on le retrouve. Maintenant, celui qui dit, écoute, moi, j'attends que Dieu il se dévoile, il a rien compris, eux. Il a pas joué à cache-cache, celui-là.
Ah ouais,
celui qui est là, qui dit, écoute, moi j'attends qu'il se dévoile. C'est pas comme ça qu'on joue à cache-cache. On joue à cache-cache, il y a des indices, tu cherches. Il est peut-être là. Il te fait un bruit, il vient par cette fenêtre, par cette porte, etc. Tu t'embrouilles. Tu le trouves. Ah, t'as trouvé, tu dis, ah, j'ai trouvé. Ah, c'est bien. Pareil.
On
hein? Quoi? Tu parles de Machiav. Non. Même sans arriver à Machiav, Dieu se cache dans votre vie. Il est partout, Dieu. Oui. Il est là partout. Mais il se cache. Et parfois, il nous fait des petits clins d'œil comme ça. Et là, tu dis, bon, c'est bon, j'ai compris. c'est pas fréquent, mais ça arrive. Il nous envoie des petits clins d'œil parfois. Des fois, il y a un truc qui arrive, qu'il n'y a que toi qui comprends ce qui s'est passé. Tu as très bien compris ce qui s'est passé. Personne n'a compris ce qui s'est passé. Tiens, Hachem, c'est bon. Bravo. Bien joué.
Écoute-toi.
1-0. Tu comprends, si ça, pile, c'était pour moi, cela.
Mais à chacun, ça arrive.
Cette fois, il y a trop de hasard, c'est pas possible.
Ah, c'est pas possible.
C'est pas du hasard.
Oui, mais à la fin du billet, c'est plus
d'hasard. Yuvan, on va prendre maintenant, on est en bas de la page 361. Yuvan, Tuftam, Vedat. Avec ça, on va comprendre de manière tout à fait intelligible les Takanat Rahamim, le fait que les sages ont instauré Shetiknu Brachot Kriyat Shema Shtaim Lefanea. Vous savez que, à la base, le Kriyat Shema, il y a trois parties. En fait, à la base, il y avait deux parties. Shema, Ve'afta, Ve'ayim Shamoa, jusqu'à Kimei Hashamaim Al Ha'aretz. Ça, c'est le Shema. Après, les sages ont rajouté la paracha des Tzitzit, Vayomer. Parce que là-bas, dans cette paracha, on parle de la sortie d'Égypte. Et comme tous les jours, il faut mentionner la sortie d'Égypte, donc ils ont rajouté la troisième partie du Shema qui est Vayomer. Mais après, les sages ont instauré encore quelque chose. Ils ont instauré ce qu'on appelle les Brachot Kriyat Shema. Birchot Kriyat Shema. Les bénédictions du Shema. Avant et après. Le matin, par exemple, c'est les bénédictions de Yotzer Or Uvore Chosher, Ose Shalom Uvore Takol, Baruch Ata Hashem Yotzer Ameorot, Baruch Ata Hashem Abocher Bamo Israel Be'ahava. D'accord? Et après le Shema, on a encore une bracha. Baruch Ata Hashem Gaal Israel. Ça, ce sont des bénédictions que les sages ont instaurées le matin et le soir. Ce soir, d'accord, dans le Kriyat Shema, pareil. On va commencer par Baruch Ata Hashem, on va terminer par Amarivar, Baruch Ata Hashem Amarivar Avim, Avatolam, Baruch Ata Hashem Oev Amo Israël. Deux bénédictions après aussi. Gaal Israël, Shomer Tamo Israël. Donc le matin, deux bénédictions avant, une après. Le soir, deux bénédictions avant le Shema, deux bénédictions après le Shema. C'est les sages qui ont instauré comme ça. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'a priori, il pose une question très simple. Il dit, quand tu lis le Shema, tu comprends pas le rapport qu'il y a, a priori, entre les bénédictions du Shema et le Shema. Normalement, la beracha d'une mitzvah doit être liée à la mitzvah, on est d'accord? Je vous donne un exemple. Par exemple, avant de mettre les tzitzit, le talit, qu'est-ce que je fais comme bénédiction? Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Ha'olam, Asher Kideshenu B'mitzvotav Tzivanu, Leit Atef, Betzitzit. Traduction. Béni sois-tu l'Éternel, notre Dieu, roi du monde, celui qui nous a ordonné de nous envelopper avec les tzitzit. Donc, est-ce que la bénédiction était liée à l'action que je vais faire?
Oui.
Bien sûr. Dans la bénédiction, je décris ce que je vais faire. Mm. Autre exemple. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Ha'olam, Asher Kideshenu B'mitzvotav Tzivanu, Lehaniach Tefilin. Béni sois-tu l'Éternel, notre Dieu, roi du monde, celui qui nous a ordonné de mettre les Tefilin. Et là, j'attache. Donc, la bénédiction est liée
à
l'action que je vais faire. Et pareil, toutes les bénédictions, d'accord? À la chilat matzah, etc. Donc, normalement, avant de faire le schéma, qu'est-ce qu'on aurait dû avoir? On aurait dû avoir une bénédiction très simple. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Ha'olam. Asher Kideshenu Mitzvah Tzivanu. D'accord? L'ikro Kriyat Shema. Béni soit l'Éternel, notre Dieu, le roi du monde. Celui qui nous a ordonné, celui qui nous a sanctifié par ses commandements, et nous a ordonné de lire le schéma.
C'est pas une action.
Qu'est-ce qu'on dit à la place de ça? On commence à raconter. Dieu, il a créé la lumière. Il a créé l'obscurité. Il a créé les anges. Il a créé les astres. Et Hachem, il nous aime. Et nous, on t'aime. Mais quel rapport avec le chemin? Pourquoi tu me parles de ça maintenant? Normalement, tu me dis que les sages ont instauré une beracha. Ce qu'ils ont mis juste avant le schéma, juste après Ishtabar, c'est des berachot. Une beracha. Une beracha. C'est censé préparer ce que tu dois faire. Donc, normalement, la beracha, elle devrait être en une ligne. Baruch Ata Hachem, qui nous a ordonné de lire le schéma. Ouais. Quand on se va parler qu'il a Dieu, il a créé la lumière, il a créé l'obscurité, il a créé le monde, et il nous aime, et il nous a toujours aimés, et il nous a fait sortir d'Égypte. Mais quel rapport avec le chemin? Pourquoi tu parles de ça maintenant? On a la réponse. La réponse est très simple. Dédich Ora, qu'a priori, je suis à la page 362, en la hem shaykhut klal nkrat shema. A priori, ces bénédictions n'ont absolument pas de rapport avec le schéma. Que moi, je suis voir Rajba ou Sharposkim. Comme le décisionnaire, le Rajba, il écrit, et deux décisionnaires, ils précisent. Ils disent que ça n'a rien à voir. Mais là, ma, car autant bichot kriyat shema. Alors, dans ce cas-là, pourquoi on les appelle les bénédictions du kriyat shema? Mais là, ma, tiknotan le fané adavka. Et pourquoi on instaurait les lire avant le schéma? Seulement, la réponse est très simple. Et là, michoum, seulement, c'est parce que, chez ikar kriyat shema, le kayem, bichol, le vavecha, bichne, yitzerecha. Je t'expliquais, c'est très simple. C'est quoi l'essentiel du Kriyat Shema? L'essentiel du Kriyat Shema, c'est Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Bechol Levavecha, de tout ton cœur, avec deux bêtes. Bechol Levavecha. Monsieur Yass dit, normalement, on aurait dû dire comment? Bechol Libecha. Levavecha, ça se dit pas. Pourquoi on dit Levavecha avec deux bêtes pour te dire Bishnei Yitzarecha avec tes deux penchants? Tu dois aimer Hashem avec tes deux penchants. Daïnou, ça veut dire, et là vous comprenez, vous allez comprendre tout de suite, Daïnou, ça veut dire, La mode neged kol monéa mehavat Hashem. Ça veut dire que l'homme devra faire face devant tout ce qui pourrait l'empêcher d'aimer Dieu. Ulvavra, en aisha veyeladea, chez les vavos, chez la dame, chez Rabbi Metivo. Maintenant, c'est quoi ton cœur? C'est quoi ton cœur? Ton cœur, c'est ta femme et tes enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes plus, ta femme et tes enfants? Normalement, non. Non, t'as un problème, tu comprends? Imagine-toi une situation, imagine-toi la situation suivante. Tu arrives maintenant dans un nouveau pays, par exemple la France, d'accord? Tu arrives dans un nouveau pays, et tu dois travailler, t'as une femme, t'as des enfants. Tu immigres, d'accord? Et on te dit, voilà, maintenant il faut travailler. Tu cherches un travail, tu trouves pas de travail dans lequel il n'y a pas le Shabbat. Tes femmes et tes enfants, ils ont faim. Ils ont faim, ils ont, on dit pas, on a faim. Alors on va trouver les allocations par-ci, allocations par-ci. Ils ont faim, ils veulent manger, ils veulent une maison normale. Donc qu'est-ce qui fait une personne qui aime sa femme et ses enfants plus que tout?
Travailler.
Il dit, écoute, j'aime, bon Dieu, excuse-moi, je t'aime bien, mais voilà, j'ai ma femme et mes enfants, je suis désolé. Maintenant, c'est très difficile de mettre ça de côté. C'est-à-dire de savoir que, par exemple, t'as pas de parnassa, et que quelque part, tout le monde est en train de souffrir. Que moi, je souffre, c'est une chose. Mais que, concrètement, que ma femme et mes enfants n'ont pas ce qu'ils veulent, c'est compliqué. Et donc, il y a l'instinct humain qui te dit, écoute, ce qui compte, c'est ta femme et tes enfants. Et s'il faut voler, va voler, qu'est-ce que je dise? Et qu'est-ce que tu veux? Et s'il faut qu'ils mangent, ils vont manger. Et là, on te dit non. T'as l'instinct de la Torah, l'instinct du déité qui te dit non. Il dit, qu'est-ce que Dieu en pense? Est-ce que Dieu pense c'est permis ou c'est interdit? C'est interdit de travailler Shabbat, je travaille pas Shabbat. Ah, comment faire la femme et les enfants? Eh ben, le même Dieu qui s'occupe de milliards d'êtres humains, il s'occupera d'eux. Il faut une grande émouna pour ça. Il faut une très grande émouna pour arriver à ça. Parce que concrètement, quand t'es célibataire, quand t'es jeune, bon, t'en as rien à faire. T'as des comptes à rendre à personne. Tu fais ce que tu veux. C'est toi qui payes. Mais quand tu traînes derrière avec toi une femme et des enfants, c'est difficile. C'est des choix difficiles à faire. Tu dis, attends, ça n'engage pas que moi ce choix. Ça engage une femme et des enfants et je suis pas égoïste. J'engage quelqu'un avec moi. C'est pour ça qu'on te dit, ve'aftat Hashem Elokecha bechol levavecha. Ça veut dire quoi, bechol levavecha? Ça veut dire qu'il y a parfois des choses que tellement tu as l'amour de ta femme et de tes enfants, et de ton bien-être, de ta santé, que ça pourrait t'empêcher de faire des mitzvot. Je suis pas en train de dire que on va mourir pour Dieu. On n'est pas des kamikazes, ça c'est shalom. C'est pas ça que je dis. Tout à l'heure, j'ai prévenu qu'il faut pas mal comprendre ce qu'on est en train de dire ici. Pas mal comprendre que on abandonne tout, je décolle la fusée, j'oublie tout le monde. C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Ce qu'il est en train de dire, c'est que parfois dans la vie, on a des choix à faire pour respecter la volonté d'Hachem. Et dans ces choix, ça engage notre famille. Maintenant, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord, ça se discute. On peut essayer d'être d'accord, on peut parler, on peut ne pas être d'accord, on peut, etc. Mais concrètement, il y a des choix qui engagent une famille. Et c'est difficile à prendre ces choix. Je dis, mais attends, mais finalement, qui suis-je pour ça? Ça, c'est ce que je vous raconte, c'est des vrais challenges. Moi, je n'ai pas connu ça. Mais c'est des gens qui m'ont raconté ces challenges. Des gens qui m'ont raconté ça en France. Des gens qui m'ont raconté ça aussi aux États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, lorsque les gens sont arrivés aux États-Unis, c'était impossible de trouver une parnassa Shomer Shabbat. Jusqu'aujourd'hui. Vous avez dans beaucoup de cartes de visite de boutiques Shomer Shabbat, une boutique car service, une boutique ils vous vendent des meubles. Dans la carte de visite, c'est écrit Shomer Shabbat. Et moi, je me suis toujours posé la question, je dis, mais, je sais pas, imaginez, c'est comme je vais à un magasin ici, dans sa carte de visite, c'est écrit Shomer Shabbat en hébreu. Tout est écrit en anglais, mais là, c'est écrit Shomer Shabbat. Pourquoi c'est écrit Shomer Shabbat? Alors, j'ai posé la question américain. Il m'a dit, c'est très simple. Il m'a dit, parce que lorsqu'on est venu ici aux États-Unis, dans les années 50, la majorité des gens travaillaient Shabbat. Et les quelques personnes qui respectaient le Shabbat, leur chiffre d'affaires baissait. Donc, c'est pour ça que dans la carte de visite, ils écrivaient Shomer Shabbat. Dans le sens que, écoute, si t'as une course à faire un jour, pense à moi, parce que je bosse moins.
Ah oui.
Et après, ils ont fait des annuaires de commerçants Shomer Shabbat. Pour s'entraîner. Il y a des ils ont fait des annuaires. Bon, au Rachel, ça va mieux. Ils ont fait des annuaires, carrément, de commerce Shomer Shabbat. Et jusqu'aujourd'hui, il y a encore des cartes de visite dans lesquelles c'est écrit Shomer Shabbat. Tu comprends? Maintenant, quand tu parles à des juifs comme ça, ils t'expliquent, ils te disent, écoute, c'est très compliqué. J'ai une femme, j'ai des enfants. Et en Amérique, il n'y a pas l'état d'âme là-bas. En Amérique, travailles pas, il n'y a pas de parnassa, tu dors, t'es à la rue. Exactement.
Oui.
Comment tu fais? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes plus que ta femme et tes enfants? Tu dis, écoute, bon Dieu, tu me pardonneras, je fais ce que je fais. Moi, je voudrais en enfer, au moins, ils vont manger. Et le fait d'être capable de dire, non, on a la Emouna, on va s'en sortir, Hachem veut nous aider, c'est dur. C'est ça, le Bechol Levavecha. Quand on dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ça veut dire être prêt même à sacrifier des choses qui te sont chères, qui sont très chères. Savoir que l'essentiel, c'est la volonté d'Hachem. Et qu'Hachem veut que mon bien. Hachem ne veut pas que tu meurs. Et tu mourras pas. Tu auras que des bonnes choses. Mais des fois, il y a des choses qui se passent qu'on doit te sacrifier. C'est pas facile. Alors, je continue dans les mots. C'est des mots forts qu'il dit ici. Comment chez Amour Razal?
On est capable de tout ça?
Bien sûr qu'on est capable.
Je sais pas si on est
capable. 100% on est capable. Tout le monde est capable de ça. C'est une décision. Si le capitaine à bord, il a pas pris sa décision, automatiquement, la décision sera pas prise. S'il y a un capitaine d'abord qui a pris ses décisions, la décision sera prise. C'est tout. Chacun comprend ce qu'il doit comprendre. Kemo shamu razal la pasuk ki u amar vayei zoisha utziva vayamod elubanim. Venafshecha u modecha kemashpa ocha yom ezone. Lorsqu'on parle de tu aimeras tout ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton argent, de quoi on parle? On parle des postes clés, on parle de ta parnassa, on parle de ta santé, on parle de ta vie, on parle de tes enfants, on parle de ta femme. Et on te dit que finalement, juif, il est afkir akol, puis juif lavat Hachem. Il renonce à tout ça pour l'amour d'Hachem. Pas renoncer dans le sens qu'on les jette. Renoncer dans le sens, ça veut dire que parfois, on va mettre Dieu en priorité. Et ça, c'est incompréhensible, normalement. Un être humain, il n'a pas le droit de faire ça, normalement. De quel droit tu fais ça? De quel droit tu fais ça? De quel droit pour un Dieu que tu connais pas, tu vas enlever des choses à ta femme et à tes enfants? Tu vas leur enlever du gagne-pain. Ils auraient pu avoir un meilleur confort. Ils auraient pu avoir un meilleur gagne-pain. Et toi, parce que tu veux respecter ton Shabbat, alors t'as une parnassa qui est la moitié de ce que t'aurais pu gagner. Il y a des gens qui m'ont raconté des vraies histoires. Que quand ils ont fait des très hautes études et on leur a proposé de très hauts postes dans lesquels ils pouvaient gagner le double de ce qu'ils gagnent aujourd'hui. Vous savez, monsieur Routenefèche, que c'est ça? Quand t'as du mal à finir les fins de mois, quand t'as du mal à terminer les mois, et que tu te dis que finalement, si je respectais pas le Shabbat aujourd'hui, je serais déjà triplement propriétaire. C'est dur. C'est dur, enfin, c'est difficile. Ça, c'est un exemple de quelqu'un qui a fait Messirut Nefesh. C'est un sacrifice. C'est très intéressant ce qu'il dit, parce que vous voyez, ça veut dire, il te dit, il n'y a pas que, comment ils appellent ça les Américains, on ne vend pas que du rêve. C'est pas on te dit tu veux faire la Torah, t'auras que du rêve, t'auras que des étoiles, tout va bien, etc. On te dit des fois il y aura des galères. Ce que tu dis, c'est des fois il y aura des galères. Ah, j'ai les galères, voilà. D'accord. Des fois il y aura des galères. Et il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à renoncer pour un Kadosh Baruch Hu. Maintenant, il pose une question, Michael. Il dit est-ce qu'un être humain peut arriver à ça?
Non, un être humain, c'est sûr. Mais est-ce que nous.
Parce que moi, je peux arriver à ça.
Voilà, est-ce que nous, on est comme.
Alors il pose la question. Diver yavo adam achumri le midazo. Comment l'homme matériel peut arriver à cette mida? C'est la question, d'accord? L'écart sidro trila berkat yotzeror. C'est pour ça que les sages, avant de te mettre le schéma, ils t'ont mis une bracha juste avant. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait cette bracha? Rappelez-vous, une bracha, elle te prépare à la mitzvah. Quelle mitzvah? La mitzvah du schéma. De quoi il va te parler le schéma? Le schéma, il va te parler de l'importance de renoncer à tout pour Dieu. Maintenant, Hachem, il est conscient, les Chachamim sont conscients, tu peux pas déclarer ça comme ça à quelqu'un, il faut le préparer à ça. Alors, de quoi on va te parler? Alors, on va te parler d'abord dans la bracha des anges. On n'aura pas le temps aujourd'hui de faire les deux brachas, je vais faire la première. La première bénédiction avant le schéma. On va te parler là-bas des anges. Malachim, omdi, berumo, shelola. Le odiak, doulato, shelakadash, vangrum. Qu'est-ce qu'on fait dans la première bénédiction du schéma? Et c'est intéressant, si vous avez un livre avec la traduction à la maison, ou si vous en avez ici, sinon, de lire simplement la traduction. Regardez, lisez la traduction, vous allez voir à quel point c'est des mots extraordinaires. Vous aurez les larmes aux yeux. Lisez les mots, lisez juste les mots. Après, et vous voyez comment on vous décrit la grandeur des anges. On fait une scène. On vous raconte, juste avant le schéma. Yotzer, oh, vous recherchez. Comment Dieu l'a créé, comment Dieu l'a fait ci, comment les anges sont là. Et ils montent, et ils s'élèvent, avec tous les synonymes possibles. Et ils louent, et ils exaltent, et ils chantent, et ils racontent la bonté, la grandeur d'Hachem, etc. Et on te raconte un monde entier, dans lequel t'as des anges qui sont là. C'est quoi leur seul objectif, c'est quoi? Exalter à Kadosh Baruch Hu, servir à Kadosh Baruch Hu. Et ils disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ils sont petits dans la Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Alors ça, je vais revenir sur la semaine prochaine. J'ai pas une bâclée. Parce que la prochaine du Bénéder, rappelez-le-moi, on prendra le Sidour. Et je vais vous montrer dans le Sidour de quoi parle l'Ebrachot. Et vous allez voir comment l'Ebrachot du Kriyat Shema parle de ça. On nous prépare à ça. On t'explique comment changer l'ordre des priorités dans ta tête. Comment dans ta tête, la priorité number one, c'est qu'est-ce que Dieu en pense. Pas qu'est-ce que mon patron pense, pas qu'est-ce que l'autre en pense, c'est qu'est-ce que Dieu en pense. Est-ce que Dieu il est content ou pas content? Après, à moi de réfléchir comment je vais adapter ça. Par rapport à ma femme, par rapport à mes enfants, par rapport à ma famille, par rapport au contexte dans lequel j'évolue. C'est évidemment. Mais dans ma tête, je dois arriver à la conclusion que ce qui compte, c'est la volonté de Dieu, c'est le patron. Ça, pour ça, il nous faut de la préparation. C'est une bonne question que je t'ai posée. Comment on arrive à ça? Donc, si tu veux, la semaine prochaine, on va reprendre des bénédictions du schéma. Vous allez voir comment. Parce que c'est de ça que parle le schéma. Lorsque le schéma te dit, c'est des mots, tu aimeras l'éternel de tout ton cœur, tout ton âme. C'est ça qui parle. Tu dis, jusqu'à où tu es prêt à mettre de côté tes intérêts pour un schéma? Tant que ça coûte rien. Ça coûte un peu. Tu payes, tu dis bon, donnant. Quand ça coûte cher.
vont pas le savoir.
D'accord ? Donc ça coûte cher.
C'est relatif, cher.
Voilà. Donc à nous de réfléchir à tout ça, à nous de réfléchir à tout ça et de se remettre en question, d'accord ? Quels sont nos centres d'intérêt ? Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre de côté pour Hachem ? Et on verra la semaine prochaine comment les brachot du Shabbat nous préparent à tout ça. Voilà. Alors, puisqu'on parle de sacrifice, je voudrais vous rappeler que en ce moment même, d'accord, il y a la d'abord, je voudrais féliciter David qui a repris le. David, viens, parle-toi, viens. Bon, alors, parle-toi, alors, c'est bien. David qui a repris le kiddush, enfin le kiddush, la seouda, donc il a pris toute l'année. Bon, il comptait s'arrêter aujourd'hui, mais il a décidé au prochain de continuer jusqu'à la fin de l'année. Donc on le féliciter, lui souhaiter toutes les brachot qu'il veut, Bezrat Hashem. Voilà. Et Bezrat Hashem, après, dès que ça terminera, chacun y participera. Et vous rappelez aussi qu'en ce moment même, c'est la campagne annuelle du Beit Lubavitch, d'accord, qui ramasse pour Bezrat Hashem. Pour ouvrir des centres, pour maintenir des centres qui sont en difficulté, etc. Et on sait que chaque centime, chaque euro est utilisé. Donc, tous ceux qui peuvent participer, il y a le lien dans le WhatsApp. Sinon, je peux vous donner le lien maintenant. Donc, vous pouvez me donner en espèces. Et moi, je mets avec ma carte bancaire. En tout cas, c'est une grande mitzvah. Et surtout, on est à l'approche de Guimel Tammuz, qui est la loi du Rabbi. Et la semaine prochaine, on en parlera. Enfin, c'est pour ça que la semaine prochaine, on parlera de Guimel Tammuz et de la loi du Rabbi. Donc, c'est une occasion, un moment opportun entre aujourd'hui et demain. Ça dure 36 heures, la campagne de 36 heures, pour aider les institutions du Rabbi et les renforcer pour leur permettre de diffuser le mien encore plus. Hein, oui, voilà, très bien. Bah, au prochain. T'as donné ? Voilà, c'est ce qui compte. Même un petit peu, ce que vous pouvez donner.
T'as voix d'écran. Ça va doubler.
Oui, il y a des gens qui doublent. Voilà. T'as voix d'écran.